Ô fils de l'amour. Toi qui es si proche des hauts lieux de gloire et de l'arbre céleste de l'amour, fais donc un pas, puis un autre et, marchant dans le royaume immortel, pénètre dans ce pavillon d'éternité. Tends l'oreille à ce qui fut révélé par la plume de gloire. Ô fils de l'esprit. La chose que je chéris le plus est l'équité. Si tu me désires, ne t'en détourne pas. Ne la néglige pas si tu veux que je mette en toi ma confiance. Grâce à elle, tu verras avec tes propres yeux et non avec ceux des autres et tu acquerras le savoir par ta propre connaissance et non par celle de ton voisin. Médite dans ton cœur sur l'homme que tu dois être. En vérité, l'équité est le don que je t'ai fait et le signe de ma faveur bienveillante. Ne la perds jamais de vue. Il est donc de notre devoir en ce siècle radieux de rechercher les principes essentiels de la divine religion, de découvrir les réalités sous-jacentes de l'unité de l'humanité et de trouver la source d'unité et de concorde qui réconciliera les hommes dans l'harmonie céleste de l'amour. Je demande à Dieu que la divine lumière dont il est question au 12e chapitre de Saint Jean, dirige pour toujours sur toi ses rayons. La vie terrestre de l'homme est éphémère, aussi doit-il en apprécier chaque instant et choisir ce qui peut le conduire à la gloire éternelle. Ô fils de l'existence, fais ton examen de conscience chaque jour avant que tu ne sois convoqué pour le règlement final, car la mort, sans t'avertir, viendra à toi, et tu devras rendre compte de tes actes. Une vie nouvelle est actuellement en train de se manifester chez tous les peuples de la terre et aucun n'en a découvert la cause ni perçu les motifs. Voyez l'Occident, soyez témoins de la façon dont il a, dans la poursuite de choses vaines et sans importance, sacrifié et comment il sacrifie encore, des vies innombrables pour la conservation de ses richesses et le maintien de sa suprématie. Ô amis, ne restez pas insouciant des vertus dont vous fûtes doué, ni indifférent au sujet de votre haut destin. Ne permettez pas que vos efforts soient compromis par les vaines images que certains cœurs ont inventées. Ô fils de l'amour. Toi qui es si proche des hauts lieux de gloire et de l'arbre céleste de l'amour, fais donc un pas, puis un autre et, marchant dans le royaume immortel, pénètre dans ce pavillon d'éternité. Tends l'oreille à ce qui fut révélé par la plume de gloire. Ô fils de l'esprit. La chose que je chéris le plus est l'équité. Si tu me désires, ne t'en détourne pas. Ne la néglige pas si tu veux que je mette en toi ma confiance. Grâce à elle, tu verras avec tes propres yeux et non avec ceux des autres et tu acquerras le savoir par ta propre connaissance et non par celle de ton voisin. Médite dans ton cœur sur l'homme que tu dois être. En vérité, l'équité est le don que je t'ai fait et le signe de ma faveur bienveillante. Ne la perds jamais de vue. Il est donc de notre devoir en ce siècle radieux de rechercher les principes essentiels de la divine religion, de découvrir les réalités sous-jacentes de l'unité de l'humanité et de trouver la source d'unité et de concorde qui réconciliera les hommes dans l'harmonie céleste de l'amour. Je demande à Dieu que la divine lumière dont il est question au 12e chapitre de Saint Jean, dirige pour toujours sur toi ses rayons. La vie terrestre de l'homme est éphémère, aussi doit-il en apprécier chaque instant et choisir ce qui peut le conduire à la gloire éternelle. Ô fils de l'existence, fais ton examen de conscience chaque jour avant que tu ne sois convoqué pour le règlement final, car la mort, sans t'avertir, viendra à toi, et tu devras rendre compte de tes actes. Une vie nouvelle est actuellement en train de se manifester chez tous les peuples de la terre et aucun n'en a découvert la cause ni perçu les motifs. Voyez l'Occident, soyez témoins de la façon dont il a, dans la poursuite de choses vaines et sans importance, sacrifié et comment il sacrifie encore, des vies innombrables pour la conservation de ses richesses et le maintien de sa suprématie. Ô amis, ne restez pas insouciants des vertus dont vous fûtes doués, ni indifférents au sujet de votre haut destin. Ne permettez pas que vos efforts soient compromis par les vaines images que certains cœurs ont inventées.
Heureux sont les sages qui ont reconnu le droit sentier de Dieu et ont regardé vers son royaume. Heureux les joyeux et les sincères dont les cœurs lumineux brûlent de la connaissance du miséricordieux et que leur renoncement protège des vents sauvages de l'épreuve et de la souffrance. Heureux les intrépides dont le cœur ne se trouble pas devant la puissance des oppresseurs. Heureux les lucides qui ont appris à distinguer le transitoire de l'éternel, qui ont tourné leur face vers l'impérissable et qui sont mentionnés parmi les immortels dans le royaume de pouvoir et de gloire. Qu'il est excellent et noble, l'homme qui est parvenu au grade pour lequel il avait été désigné. Mais combien vil et méprisable est celui qui se détourne du bien général et gaspille ses précieuses capacités à des fins personnelles et égoïstes. Le plus grand bonheur ne se trouve que dans le bonheur des autres. Hélas, ils imaginent que la grandeur et la gloire vont de pair avec l'accumulation des richesses terrestres et de vanités du même genre. Mais maintenant, comprenez. Si un homme se donne la peine de réfléchir, il verra que le Dieu omnipotent l'a distingué parmi ses créatures par le vêtement de l'honneur, de la vertu et de l'intelligence. L'homme est devenu le printemps des merveilles divines et le centre des mystères du royaume du ciel. Pourquoi salit-il ce manteau immaculé avec la boue des désirs égoïstes et échange-t-il cet honneur éternel pour les profondeurs de l'extrême abaissement? Par les explications que nous avons déjà données, nous avons voulu montrer que la gloire, le bonheur, l'honneur et la paix de l'homme ne consistent pas dans ses richesses personnelles mais plutôt dans la sublimation de son âme, la noblesse de ses intentions, l'étendue de son éducation et dans la solution qu'il adopte devant les problèmes de la vie. En vérité, c'est dans les âmes des hommes que se trouve leur seule gloire. Tu me demandes si, par l'apparition du royaume de Dieu, toute âme a été sauvée. Le soleil de réalité s'est montré pour le monde entier, son apparition lumineuse est le salut et la vie, mais seul celui qui aura ouvert les yeux de la réalité et qui aura vu ses lumières sera sauvé. Heureux sont les sages qui ont reconnu le droit sentier de Dieu et ont regardé vers son royaume. Heureux les joyeux et les sincères dont les cœurs lumineux brûlent de la connaissance du miséricordieux et que leur renoncement protège des vents sauvages de l'épreuve et de la souffrance. Heureux les intrépides dont le cœur ne se trouble pas devant la puissance des oppresseurs. Heureux les lucides qui ont appris à distinguer le transitoire de l'éternel, qui ont tourné leur face vers l'impérissable et qui sont mentionnés parmi les immortels dans le royaume de pouvoir et de gloire. Qu'il est excellent et noble, l'homme qui est parvenu au grade pour lequel il avait été désigné. Mais combien vil et méprisable est celui qui se détourne du bien général et gaspille ses précieuses capacités à des fins personnelles et égoïstes. Le plus grand bonheur ne se trouve que dans le bonheur des autres. Hélas, ils imaginent que la grandeur et la gloire vont de pair avec l'accumulation des richesses terrestres et de vanités du même genre. Mais maintenant, comprenez. Si un homme se donne la peine de réfléchir, il verra que le Dieu omnipotent l'a distingué parmi ses créatures par le vêtement de l'honneur, de la vertu et de l'intelligence. L'homme est devenu le printemps des merveilles divines et le centre des mystères du royaume du ciel. Pourquoi salit-il ce manteau immaculé avec la boue des désirs égoïstes et échange-t-il cet honneur éternel pour les profondeurs de l'extrême abaissement? Par les explications que nous avons déjà données, nous avons voulu montrer que la gloire, le bonheur, l'honneur et la paix de l'homme ne consistent pas dans ses richesses personnelles mais plutôt dans la sublimation de son âme, la noblesse de ses intentions, l'étendue de son éducation et dans la solution qu'il adopte devant les problèmes de la vie. En vérité, c'est dans les âmes des hommes que se trouve leur seule gloire. Tu me demandes si, par l'apparition du royaume de Dieu, toute âme a été sauvée. Le soleil de réalité s'est montré pour le monde entier, son apparition lumineuse est le salut et la vie, mais seul celui qui aura ouvert les yeux de la réalité et qui aura vu ses lumières sera sauvé.
Je suis témoin, ô mon Dieu, que tu m'as créé pour te connaître et pour t'adorer. J'atteste en cet instant mon impuissance et ton pouvoir, ma pauvreté et ta richesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, celui qui subsiste par lui-même, celui qui secourt dans le péril. Le dessein de Dieu en créant l'homme a été, et restera toujours, de lui permettre de connaître son Créateur et d'atteindre sa présence. De cette intention excellente, de cet objet suprême, tous les livres célestes et les grandes écritures divinement révélées portent un témoignage sans équivoque. Selon le texte de l'Ancien Testament, Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Cela indique évidemment que l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce qui veut dire que les perfections de Dieu, les divines vertus se reflètent ou se révèlent dans la personnalité humaine. Exactement comme la lumière et la splendeur du soleil sont entièrement et brillamment réfléchies lorsqu'elles tombent sur un miroir poli, de même les qualités et attributs de divinité sont-ils irradiés depuis la profondeur d'un cœur pur. Que l'homme soit la plus noble des créatures de Dieu est une évidente vérité. Voyons plus précisément comment il est à l'image et à la ressemblance de Dieu et selon quels critères il peut être jaugé et apprécié. Cette norme ne peut rien être d'autre que les vertus divines qui se révèlent en lui. Donc, tout homme doué de qualités divines, qui reflète les perfections et les vertus célestes, qui est l'expression d'attributs idéaux et dignes d'éloge, cet homme est, en vérité, à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme est désigné comme étant la plus grande représentation de Dieu, il est le livre de la création car en lui existent tous les mystères de l'être. S'il marche dans l'ombre du véritable éducateur et s'il est correctement formé, il devient essence des essences, lumière des lumières, esprit des esprits, il devient le centre des apparitions divines, la source des qualités spirituelles, l'aurore des lueurs célestes et le lieu des divines inspirations. S'il s'est privé de cette éducation, il est la manifestation des défauts diaboliques et descend au fond des instincts bestiaux et aux sources des états de ténèbres. Aux forces de vie, l'Orient et l'Occident ont, de concert, honoré les étoiles de la splendeur évanouie et sont tombés en prière vers les horizons assombris. Tous deux ont complètement négligé l'étendue des fondations des livres sacrés de Dieu et ont grandi insoucieux des mérites et des vertus de la religion. Je suis témoin, ô mon Dieu, que tu m'as créé pour te connaître et pour t'adorer. J'atteste en cet instant mon impuissance et ton pouvoir, ma pauvreté et ta richesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, celui qui subsiste par lui-même, celui qui secourt dans le péril. Le dessein de Dieu en créant l'homme a été, et restera toujours, de lui permettre de connaître son Créateur et d'atteindre sa présence. De cette intention excellente, de cet objet suprême, tous les livres célestes et les grandes écritures divinement révélées portent un témoignage sans équivoque. Selon le texte de l'Ancien Testament, Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Cela indique évidemment que l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce qui veut dire que les perfections de Dieu, les divines vertus se reflètent ou se révèlent dans la personnalité humaine. Exactement comme la lumière et la splendeur du soleil sont entièrement et brillamment réfléchies lorsqu'elles tombent sur un miroir poli, de même les qualités et attributs de divinité sont-ils irradiés depuis la profondeur d'un cœur pur. Que l'homme soit la plus noble des créatures de Dieu est une évidente vérité. Voyons plus précisément comment il est à l'image et à la ressemblance de Dieu et selon quels critères il peut être jaugé et apprécié. Cette norme ne peut rien être d'autre que les vertus divines qui se révèlent en lui. Donc, tout homme doué de qualités divines, qui reflète les perfections et les vertus célestes, qui est l'expression d'attributs idéaux et dignes d'éloge, cet homme est, en vérité, à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme est désigné comme étant la plus grande représentation de Dieu, il est le livre de la création car en lui existent tous les mystères de l'être. S'il marche dans l'ombre du véritable éducateur et s'il est correctement formé, il devient essence des essences, lumière des lumières, esprit des esprits, il devient le centre des apparitions divines, la source des qualités spirituelles, l'aurore des lueurs célestes et le lieu des divines inspirations. S'il s'est privé de cette éducation, il est la manifestation des défauts diaboliques et descend au fond des instincts bestiaux et aux sources des états de ténèbres. Aux forces de vie, l'Orient et l'Occident ont, de concert, honoré les étoiles de la splendeur évanouie et sont tombés en prière vers les horizons assombris. Tous deux ont complètement négligé l'étendue des fondations des livres sacrés de Dieu et ont grandi insoucieux des mérites et des vertus de la religion.
Ils ont considéré certains usages et certaines conventions comme la base immuable de la foi divine et s'y sont obstinément tenus. Ils ont cru avoir atteint le glorieux sommet des réalisations et des succès alors, qu'en fait, ils ont touché le fond le plus bas de l'étourderie et se sont privés complètement des dons de la grâce de Dieu. La pierre angulaire de la religion de Dieu est l'acquisition des perfections divines et la part que l'on prend de ses multiples bienfaits. Le but essentiel de la foi et de la fidélité est d'ennoblir l'être intime de l'homme par les ondées de la grâce d'en haut. Si cela n'est pas atteint, il y a vraiment perte et privation, car c'est alors le tourment du feu infernal. Il incombe donc à chaque bâil de méditer dans son cœur cette pensée subtile et capitale afin que, contrairement à ce qui arrive dans les autres religions, il ne puisse se satisfaire du bruit des clameurs et du vide des doctrines, mais qu'il donne plutôt l'exemple, dans chaque aspect de sa vie, des attributs et des vertus qu'il a reçus de Dieu et qu'il se lève pour être distingué par sa bonne volonté. Il doit justifier de sa qualité de bâil par les actes et pas seulement par le nom. Est un vrai bâil celui qui, jour et nuit, s'efforce d'avancer dans le sentier du progrès humain, celui dont le plus cher désir est d'enrichir et d'illuminer le monde par sa vie et par ses actes, celui dont la source d'inspiration est l'essence de la divine vertu, celui qui, dans sa vie, ne vise qu'à être une cause d'infini progrès. Ce n'est que lorsqu'il aura atteint de si parfaites qualités que l'on pourra dire de lui qu'il est un vrai bâil, car en cette sainte dispensation qui est le couronnement glorieux des anciens âges et des cycles révolus, la vraie foi ne consiste pas simplement dans la connaissance de l'unité de Dieu mais dans un mode de vie qui manifeste toutes les perfections des vertus qu'elle renferme. Ils ont considéré certains usages et certaines conventions comme la base immuable de la foi divine et s'y sont obstinément tenus. Ils ont cru avoir atteint le glorieux sommet des réalisations et des succès alors, qu'en fait, ils ont touché le fond le plus bas de l'étourderie et se sont privés complètement des dons de la grâce de Dieu. La pierre angulaire de la religion de Dieu est l'acquisition des perfections divines et la part que l'on prend de ses multiples bienfaits. Le but essentiel de la foi et de la fidélité est d'ennoblir l'être intime de l'homme par les ondées de la grâce d'en haut. Si cela n'est pas atteint, il y a vraiment perte et privation, car c'est alors le tourment du feu infernal. Il incombe donc à chaque bâil de méditer dans son cœur cette pensée subtile et capitale afin que, contrairement à ce qui arrive dans les autres religions, il ne puisse se satisfaire du bruit des clameurs et du vide des doctrines, mais qu'il donne plutôt l'exemple, dans chaque aspect de sa vie, des attributs et des vertus qu'il a reçus de Dieu et qu'il se lève pour être distingué par sa bonne volonté. Il doit justifier de sa qualité de bâil par les actes et pas seulement par le nom. Est un vrai bâil celui qui, jour et nuit, s'efforce d'avancer dans le sentier du progrès humain, celui dont le plus cher désir est d'enrichir et d'illuminer le monde par sa vie et par ses actes, celui dont la source d'inspiration est l'essence de la divine vertu, celui qui, dans sa vie, ne vise qu'à être une cause d'infini progrès. Ce n'est que lorsqu'il aura atteint de si parfaites qualités que l'on pourra dire de lui qu'il est un vrai Bahaï, car en cette sainte dispensation qui est le couronnement glorieux des anciens âges et des cycles révolus, la vraie foi ne consiste pas simplement dans la connaissance de l'unité de Dieu mais dans un mode de vie qui manifeste toutes les perfections des vertus qu'elle renferme.
Ô Dieu, j'ai tourné ma face vers ton royaume d'unité, et je me suis plongé dans l'océan de ta miséricorde. Ô Dieu, éclaire ma vision par le secours de tes lumières en cette sombre nuit, et réjouis-moi par le vin de ton amour en cet âge merveilleux. Ô Dieu, fais-moi entendre ton appel et ouvre devant ma face les portes de tes cieux, pour que je voie la lumière de ta gloire, et que je sois attiré par ta beauté. En vérité, tu es le dispensateur, le généreux, le miséricordieux, le bienfaisant. Ô Dieu, j'ai tourné ma face vers ton royaume d'unité, et je me suis plongé dans l'océan de ta miséricorde. Ô Dieu, éclaire ma vision par le secours de tes lumières en cette sombre nuit, et réjouis-moi par le vin de ton amour en cet âge merveilleux. Ô Dieu, fais-moi entendre ton appel et ouvre devant ma face les portes de tes cieux, pour que je voie la lumière de ta gloire, et que je sois attiré par ta beauté. En vérité, tu es le dispensateur, le généreux, le miséricordieux, le bienfaisant.